Bien, le thème de ma présentation s'intitule la problématique d'aménagement et d'intégration du parc et de gestion du parc national Otic-Kéran. Donc, la présentation s'articule autour de la localisation du secteur d'études, cadre conceptuel et méthodologique, résultats, discussions, conclusions et perspectives. Nous disons que le parc Otic-Kéran se situe au nord du Togo, à 9 degrés 55 minutes et 10 degrés 20 minutes latitude nord, 0 degrés 25 minutes et 1 degré 0 minutes longitude est. Alors, pourquoi cette étude? Nous disons que les aires protégées constituent à l'heure actuelle le principal outil et moyen de conservation de la biodiversité d'un pays ou d'une région. Malheureusement, ces territoires sont en proie à une dégradation accentuée de leurs ressources naturelles. Malgré les efforts des gouvernants, l'aménagement des parcs nationaux constitue encore un défi majeur à relever. Les stratégies mises en place par les États pour mieux conserver pour mieux cerner le problème d'aménagement des aires protégées reste précaire. Au Togo, l'aménagement forestier du parc national Otic-Kéran est jusqu'à présent à un niveau embryonnaire, alors qu'aujourd'hui, on admet qu'un des principes de base de la gestion des aires protégées consiste à doter chaque aire protégée d'un plan d'aménagement afin de répondre aussi bien à l'exigence de la conservation qu'aux besoins des populations locales, favorisant ainsi leur intégration. Ce constat nous a amené à se poser un certain nombre de questions. La première, quels sont les facteurs qui entravent l'aménagement du parc national Otic-Kéran? Quels peuvent être les impacts du système d'aménagement et de gestion du parc national Otic-Kéran sur la conservation de la biodiversité et sur le développement local? Et enfin, comment faut-il aménager de façon durable le parc national Otic-Kéran? Comme hypothèse, nous disons qu'une réelle politique d'aménagement permet l'intégration du parc national dans la vie socio-économique des populations riveraines. Le système de gouvernance et d'aménagement a contribué à l'occupation et à la dégradation de la biodiversité du parc national Otic-Kéran et impacté négativement le développement local. Et enfin, le modèle d'aménagement participatif permet de sauvegarder durablement la biodiversité du parc national Otic-Kéran. Comme objectif, nous disons, c'est de déterminer les facteurs explicatifs de la problématique d'aménagement du parc national Otic-Kéran, évaluer les impacts de la gestion actuelle sur la vie socio-économique des populations riveraines et sur la conservation des parcs, et enfin développer un modèle d'aménagement forestier rationnel et durable du parc national Otic-Kéran. Allô? Est-ce que vous m'entendez?
Oui, très bien.
Alors, je poursuis.
Pardon.
D'accord. Et comme méthodologie, nous avons dans un premier temps fait des recherches documentaires. Nous avons également mené des enquêtes auprès des populations riveraines et auprès des gestionnaires du parc national Otic-Kéran. Nous avons également fait des focus group auprès de 246 ménages répartis dans 15 villages. Donc, le tableau ci-après montre le taux d'échantillonnage dans chaque village. Donc, nous avons au niveau du parc Otic-Kéran deux préfectures ou deux départements, le département de Kéran et celui de Oti Sud. La carte suivante permet de localiser les différents villages dans lesquels nous avons mené nos enquêtes. Le logiciel SPSS a permis d'abord d'élaborer et de dépouiller le questionnaire. Et nous avons utilisé le logiciel Envi pour pouvoir traiter nos images. Et le logiciel ArcGIS nous a permis d'élaborer les différentes cartes qui figurent dans cette étude. Comme résultat, dans un premier temps, nous avons cherché à connaître les facteurs qui ont handicapé et pendant longtemps l'aménagement du parc Otik Erang Fazaruma Fakasa. Et nous avons constaté que c'est l'absence de plan d'aménagement qui a engendré la non-aménagement du parc national Otik Erang. Donc, pourquoi l'État n'a pas élaboré des plans d'aménagement? Ceci est dû au problème de délimitation des aires protégées, le problème financier et surtout la volonté politique. Si la volonté politique y était, on pouvait facilement aménager les aires protégées, cette aire protégée. Malheureusement, le manque de moyens et les crises sociopolitiques liées à ces aires protégées n'ont pas amené l'État à pouvoir aménager ces parcs. Nous avons cherché à déterminer la perception de la gestion du parc par les populations riveraines et les gestionnaires du parc. Et nous avons situé ça en trois périodes. D'abord, avant les années 90, entre 90 et 2000, et après les années 2000. Donc, avant les années 90, les gestionnaires et forestiers, agents forestiers du parc disent que la gestion était mauvaise, également entre 90 et 2000 et après les années 2000. Ceci à cause de l'état de dégradation actuel des ressources naturelles de cette aire protégée. Lorsque nous avons posé la même question à la population riveraine, elles ont dit également que cette gestion est mauvaise suite à la gestion répressive. Donc, l'État n'associait pas la population dans la gestion de cette aire protégée. Donc, ceci a amené les populations à se révolter. Et en 2015, nous voyons la photo numéro 1, un camp des Monsi et des Mouba qui a été brûlé et les populations ont été expulsées du parc. Ceci a amené et la population de Mangoua en octobre 2015 a barricadé la nationale numéro 1 et exposé des slogans hostiles à la réhabilitation des aires protégées au Togo. Toutefois, l'aire protégée a contribué à améliorer les conditions de vie de la population riveraine via le prélèvement des ressources naturelles, les populations accroissent leurs ressources. Également, compte tenu des projets réalisés tout autour de cette aire protégée, on a eu l'installation des forages et la construction des écoles. Nous avons aussi cherché à relever l'état des ressources naturelles. Donc, aujourd'hui, nous allons constater que la ressource naturelle du parc national Otik Erang est très dégradée. Et quelles sont les causes qui ont entraîné cette dégradation? Nous avons dans un premier temps déterminé les facteurs directs. Et nous avons l'agriculture et la carbonisation qui sont les majeurs facteurs qui ont entravé la dégradation des ressources naturelles. Et comme facteur indirect, nous avons la pauvreté, la pression démographique et le système d'aménagement. Vous voyez au niveau de cette planche l'état d'occupation de sol du parc avant 1988. Nous constatons que le parc n'était pas envahi, seule une petite partie au sud. Mais lorsque nous prenons celle de 2009, nous constatons que le parc est presque envahi par la présence de champs et l'installation des villages. Donc, le tableau numéro 2 nous permet de voir qu'il y a eu une régression des ressources naturelles au profit des champs et jachères. Nous avons aussi déterminé la vitesse de progression de l'envahissement de ce parc et nous constatons que entre 1988 et 2019, plus de 3 991,115 hectares par an sont envahis par la population. Nous avons également déterminé la distance d'incursion de l'occupation du parc, de l'occupation humaine dans le parc national Otikéra. Et lorsque nous prenons le sud du parc, nous constatons qu'au niveau du, en partant du village Takbamba, la distance d'incursion est de plus de 23,54 km. Alors qu'au nord, dans le village de Bayo, nous avons 12,56 km d'incursion. Nous avons essayé de déterminer le degré de pression au sein du parc. Donc, le parc est envahi totalement, comme le montre la carte. Seule une petite portion est actuellement protégée à cause de la présence d'une brigade forestière. Ceci nous a amené à élaborer, proposer un zonage du parc. Dans ce zonage, nous avons une aire centrale et cette aire centrale longe les cours d'eau Kumongu et la Kéran dans le but de pouvoir protéger les forêts galeries qui sont tout au long de ces berges. Nous avons aussi nous avons aussi proposé qu'il y ait des zones agroforestières pour pouvoir permettre la régénérescence. Nous avons demandé qu'il y ait une zone tampon, ceci pour pouvoir protéger la zone centrale. Nous avons aussi élaboré un modèle de mise en œuvre et de suivi évaluation de l'aménagement forestier du parc national Otikéra. Et nous avons proposé 5 phases. La première phase consiste à mettre en place un cadre de concertation et de prise de décision. Et dans ce cadre, on fera un diagnostic. Ceci permettra d'élaborer des plans d'aménagement, de faire un suivi de ce plan. D'abord, faire une mise en œuvre du modèle avant de faire le suivi et évaluation de ce modèle. Ainsi finit la présentation de nos résultats. Nous passons à la discussion. Donc, nous disons que le régime forestier demeure le régime foncier demeure un handicap majeur à l'aménagement et à la gestion des aires protégées au Togo. Et les travaux de Chamien et Kiansi ont révélé la même chose. Et au niveau du Bénin et au niveau du Togo dans le parc Fazao Malfa Kassa. Les enjeux des acteurs politiques et les conditions de précarité auxquelles font face les populations rurales sont autant de problèmes qui fragilisent l'intégration des parcs nationaux dans le quotidien des populations rurales. Ce point de vue est partagé par Chamien et Rouen Yiziri. En 2009. Les résultats auxquels nous sommes parvenus montrent que le parc national Otikéra a été envahi et exploité par des populations riveraines. Ce constat est fait par Wadio et Canon en 2010 et par Moussa au niveau de la réserve de biosphère du WO Niger. La gestion durable des parcs nationaux passent impérativement par la mise en place des plans d'aménagement participatif. Cette solution corrobore celle proposée par Djoubenou en 2010 au Bénin. Et l'aménagement, comme conclusion, nous disons que l'aménagement du parc national est resté dans une situation de précarité. La gestion unilatérale du parc national Otikéra par l'État a fait que la raison d'existence de cette aire protégée louable en soi a perdu sa crédibilité aux yeux des populations riveraines. Les populations riveraines regrettent parfois de ne pas suffisamment bénéficier des retombées de la gestion du parc. Après plus d'un demi-siècle de gestion du parc, les conditions de vie des populations ne se sont pas améliorées et les villages riverains manquent encore d'infrastructures socio-communautaires. Ceci traduit la problématique de l'intégration du parc national Otikera dans la vie socio-économique des populations riveraines. L'étude de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation du sol du parc national Otikera a relevé une tendance régressive des formations naturelles au profit des formations anthropiques ces deux décennies. Comme perspective, nous disons qu'il faut mettre en place un système de zonage autour des villages riverains, des parcs, afin de suivre l'évolution du front agricole et de créer des zones de gestion communautaire des ressources forestières, garantir l'adhésion et la participation effective de tous les partenaires à travers l'information et la concertation permanente, assurer la sécurité foncière du parc en poursuivant le bornage entrepris en 2012 afin de réaffirmer le statut juridique du parc via un arrêté portant requalification du parc et enfin mobiliser les moyens nécessaires pour l'élaboration et la mise en œuvre effective des plans d'aménagement forestier du parc national Otikera. Je vous remercie.